Expédition Taxi Maboule de Thomas Chesson et Yves Nelly.
Expédition Taxi Maboule de Thomas Chesson et Yves Nelly.
Un feuilleton radiophonique en 10 épisodes.
Quatrième épisode.
La petite troupe avait débarqué à l'aéroport de Dakar au cœur de l'été 1960, alors que les colonies françaises d'Afrique noire s'apprêtaient à célébrer leur indépendance. Quatre jeunes gens qui posaient le pied en Afrique pour la première fois, enthousiastes et pleins d'appréhension. Quelques pas de rumba sur le tarmac brûlant et ils s'étaient mis à chanter à pleine voix « Indépendance, cha-cha ».
À l'aéroport ? Quel aéroport ? Ouagadougou ? Attends.
Quand elle chante, quand elle danse.
Qu'est-ce qu'ils foutent en haute volta ? Seulement trois ? Me dis pas que le fils du ministre est manquant. Ah, la fille, on s'en fout de la fille. La présidence leur envoie une voiture ? Non, non, ne les fais pas arrêter. Je vais envoyer Ahmed les récupérer là-bas. Pense à doubler l'enveloppe du douanier qui t'a prévenu. Il le mérite bien. Tu as saboté, Ahmed. Saboté. Je te les avais retrouvés. Je t'avais dit où les récupérer. Et toi, tu les laisses encore filer. Je suis obligé de sévir, Ahmed. Et je te jure que ça ne me fait pas plaisir. On a des hommes à nous dans l'armée voltaïque. Alors tu organises ça. Tu ratisses, tu les chopes, tu leur colles le nez dans la poussière. Et coucou, roucoucou, petit Julien. Coucou, roucoucou, Ahmed.
Coucou, coucou, coucou. Un coucou, roucoucou. Un coucou, roucoucou.
Méchante.
Aïe, 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 aïe. Je pensais comme vous, monsieur le ministre. J'avais de sérieuses réserves sur le bien fondé de cette petite excursion. Je dois reconnaître que ce sont des jeunes gens pleins de ressources. Ils font un travail épatant. Le discours de votre fils sur le pont Fédère, je n'y étais pas personnellement, bien sûr, mais le rapport que j'ai reçu fait état d'un panache et d'une verve exceptionnelle. C'est assez piquant, au moment où leur fédération se fissure de toutes parts. Le génie colonial, exactement. Je vois pas bien ce que ça veut dire, mais c'est une piqûre de rappel salutaire pour le petit Modibo. Qu'il en prenne de la graine.
Les Africains me déçoivent. La population africaine est incapable de saisir l'histoire en marche. Ils veulent toujours plus. Incapables de saisir l'opportunité de ces indépendances que nous leur accordons. Ils veulent la révolution, ils auront le chaos. 6 mois pour préparer cette damnée expédition. Monsieur Bernier voudrait que nous évitions le Soudan. Il me met en garde contre Modibo Keïta. Bernier n'est qu'une vieille baderne réactionnaire de la colo. Il considère que les Noirs sont turbulents, rebelles et contestataires, que c'est leur nature. Bernier avait raison. Je le hurle au visage de Julien. On aurait dû se cantonner au Sénégal, comme l'avait ordonné le colonel. Désobéir me noue l'estomac. La Haute Volta célèbre son indépendance dans 2 jours. Julien promet que nous y serons, assis entre Malraux et le président Yaméogo. Le taxi Mabou nous dépose à Tombouctou. Nous abandonnons Suzanne à son noir destin, ou plutôt, c'est elle qui nous abandonne. Xavier Omar semble perdu, résigné au mieux, furieux le plus souvent. Mais je crains surtout pour Julien. Je le vois ravaler ses émotions et ne rien laisser paraître face à Suzanne. Elle qui n'a jamais été aussi belle. Je n'aime pas ces images à la noix, mais oui, elle a l'allure d'une reine des Amazones. Il semble qu'il y ait des hommes que ça excite. La course contre la montre des indépendances est lancée. On court, on grimpe dans un avion en partance pour la capitale de la Haute Volta, Ouagadougou.
Ça y est.
Ça y est.
Ils ont hissé les drapeaux et les banderoles. Là.
Patrice regardait par le hublot. Là, continuait Julien. L'aérogare était décorée. Partout flottait le drapeau français et le nouveau drapeau rouge, blanc et noir. Le passeport diplomatique de Julien produisit son effet. Le douanier décrocha son téléphone, les responsables de la sécurité affluèrent. Une voiture officielle avec chauffeur fut mise à la disposition des trois jeunes gens pour les conduire à la présidence. À minuit moins quatre, retentit une Marseillaise. Monsieur Jacquinot, l'envoyé extraordinaire de la République française, traversa l'hémicycle. C'est à lui qu'on devait les drapeaux français qui proliféraient dans les rues de la capitale. À son arrivée, il avait exigé qu'on pavoisât de tricolore tant le monument aux morts que les bâtiments construits par la France et offerts au nouvel État. Le fonctionnaire qui l'accueillait n'avait pas hésité un instant à se plier à ses exigences.
C'est un prix raisonnable à payer pour mettre fin à 37 années d'esclavage français,
avait-il ajouté avec insolence. À minuit moins trois, tout le monde se rassit. Très élégant et bien mis dans son habit à revers de soie, Maurice Yaméogo monta à son tour à la tribune, s'installa confortablement dans son fauteuil présidentiel, adressant un aimable signe au représentant de la France pour l'inviter à s'asseoir auprès de lui. Minuit, le président Yaméogo se leva et lança d'une voix euphorique son discours. Tout le monde était debout. Les applaudissements crépitaient. À l'extérieur, la frénésie atteignit un sommet. Sans l'action de la police, les portes de verre de la salle auraient volé en éclats. L'orchestre joua l'hymne voltaïque. Sans un coup de canon, saluèrent la naissance du nouvel État.
L'indépendance de la République de Haute-Volta. 9 siècles d'histoire ont révélé au monde la valeur morale de l'homme voltaïque. Au nom de cette morale à partir de laquelle nous voulons bâtir notre nation, j'exprime ma profonde reconnaissance à la France.
On nous présente au président Yaméogo, main serrée, costume impeccable sorti de nos malles. Je viens s'y faire quand il veut, et je ne suis pas en reste. Le président a 7 enfants, une très jolie jeune fille, une courbette. Xavier Omar Bougonne, coincé dans son habit, reste en retrait. Rencontrer l'élite pro-française et manger des petits fours ne l'enthousiasme pas. Qu'il aille se faire pendre. Je revis. Peu me chaud les états d'âme de notre Martiniquais. Il se sent perdu, ni noir, ni blond. Il ne sait qui fêter, ni quoi, ni de quel côté se tenir. Champagne à volonté, main tendue. Encore la jolie jeune fille du président qui me sourit. Je suis d'humeur généreuse. Je présente Xavier Omar au président. Xavier Omar, futur éminent professeur de médecine sous mon aile. Le président l'informe que des postes au ministère de la Santé publique sont à pourvoir. Je peux entendre Xavier Omar grincer des dents. Monsieur Jacquinot se joint à nous. Je glisse un mot sur mes espérances au Quai d'Orsay. La jeune fille du président se presse à mes côtés. Jacquinot. Tout de même, ils auraient pu envoyer Malraux.
Ixo a bu du champagne parce que ce soir-là, s'il n'avait pas bu, il n'aurait pas supporté la compagnie des hommes. Il parla avec l'aumônier de l'archevêque qui était, paraît-il, un noble personnage. Oui, mon père. C'est vrai, mon père. Peut-être bien, mon père. Non, mon père. Ah, voyons, mais oui, peut-être bien, mon père. Ah, vous en savez plus long que moi là-dessus, mon père. Le champagne était mauvais, il lui soulevait l'émail des dents. De son côté, Patrice consacrait toute son ivresse à Denise, la plus jeune des filles du président, envoûtée par son effronterie et son impertinence. Peu expérimenté en matière de conversation avec les membres du sexe opposé, Patrice entreprit de lui parler de l'absence de Malraux aux festivités.
Du mépris délibéré de votre part.
Du mépris de ma part?
Pas de ta part spécialement, gros bêta, de la part des Français. Envoyez Jacquinot. On ne mérite pas Malraux.
Vous, enfin, tu as renversé du champagne sur ta robe. Hmm?
Ça ne tâche pas. Joli, mon petit tailleur Chanel. Je l'ai rapporté de Paris.
Ah oui.
Ça vaut rien ici. Notre pays, vous l'avez toujours méprisé.
Non, non, pas du tout. Mais pourquoi tu dis ça?
On coûtait trop cher. On valait rien. En 1932, vous nous avez supprimés. Vous avez dépecé la Haute-Volta et l'avez distribué à vos autres colonies, le Soudan, la Côte d'Ivoire et le Niger.
Non. On a fait ça?
Oui. Après les bons services rendus pendant la guerre, le Mogona Abakom a écrit une belle lettre à Vincent Auriol. Et vous nous avez reconstitués.
Le Mogona Abakom. Denise, tu es le cœur chaud de l'Afrique. Tu es une reine. Comme la reine Saraounia, mi-femme, mi-déesse. Tu possèdes des pouvoirs magiques. Saraounia s'était opposée à l'avance de la colonne de voulets et chanoines. Comme elle, tu te dresses sur mon chemin. Tu te dresses. Les officiers français avaient fait preuve d'une barbarie sans nom à ton égard. Ce ne sera pas mon cas. Je rends les armes. Je me rends à toi.
Tes deux amis, partons.
Pardon.
Tu es tout blanc. Tu vas pas vomir?
Non, 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 je...
Va les chercher. Partons d'ici.
Et ton père?
Nawalamba ne dira rien, il me dit jamais rien. Je suis sa préférée.
Nawalamba?
C'est son deuxième prénom. Il déteste quand je l'appelle comme ça. Ça veut dire celui qui vient pour rassembler. Je l'appelle comme ça depuis qu'il a quitté la Fédération du Mali. Ça le fait enrager.
Julien observait les visages sévères penchés sur le poste de TSF. Peau d'ébène, à côté desquelles celle de Patrice semblait une drôle de peau d'albinos. L'intérieur de la maison était parfaitement éclairé par des lampes à pétrole, tôle ondulée, planches, briques. Une construction miteuse d'un quartier populaire au fin fond d'un lacis de ruelles sombres et étroites. Aucun étranger ne se serait senti en sécurité ici, au milieu de ces jeunes militants du mouvement d'opposition clandestin. Une atmosphère délétère, une tension vive, très loin de l'ambiance festive qui régnait au palais présidentiel. Patrice se tenait serré contre la hanche de Denise, inconscient des regards posés sur lui. Julien comprit qu'il ne pourrait pas compter sur son camarade qui avait perdu sa lucidité tatillonne. Julien chercha Ixo et le reconnut à peine dans l'ombre. Les muscles de sa mâchoire saillaient sous sa peau. Ixo était tendu jusqu'au point de rupture. Pressentant que quelque chose d'important était sur le point de se jouer, il voulait en être. La pluie martelait le toit de tôle, le poste de TSF crachotait des parasites et des sons inaudibles.
Et quoi le frère?
Qu'est-ce qu'il dit?
Attendez, attendez quoi?
Demande au frère congolais qui est son ennemi et il répondra le belge. Demande à ton frère kényan l'anglais.
L'anglais?
Bah oui. Oui. Demande au marocain, il dira le français. Tous des Européens? Est-ce juste?
Non, non, non.
Cette poignée d'hommes blancs qui gouvernent tous ces noirs?
Non, non.
Il y a un millier d'années, l'homme noir d'Afrique maîtrisait les arts et les sciences et la course des étoiles bien avant que l'homme blanc ne découvre que la Terre était ronde.
Mais oui,
évidemment. Qu'est-il arrivé? Comment sont-ils parvenus à nous dominer?
Ah, 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 c'est la question.
Oui. C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce juste? Est-ce normal?
Non,
non, non, c'est honteux.
Non, du tout, ça
c'est honteux.
Vraiment, vraiment, c'est pas normal.
Vraiment,
c'est
la honte.
Julien cherche à attirer mon regard. Il a un œil de chien battu. Qui est le chien fou maintenant? Pauvre Julien. Le bravache est effrayé. C'est facile de ruer dans les brancards en pleine lumière. Il n'a plus le premier rôle, mais il a surtout peur de l'ombre. 10 jeunes militants agités, des discours enflammés. Le prêche d'un pasteur illuminé, un quartier mal famé. La transgression de trop. Peu m'importe. Je suivrai Denise en enfer. Au diable le président. Malraux, l'étiquette, la diplomatie, Julien et même De Gaulle. 2000 kilomètres après avoir croisé les chars de la subclaquante Fédération du Mali, je discute avec des partisans qui fustigent le père de Denise pour avoir cédé aux Français un mois plus tôt et décidé la sortie de la haute volta de la Fédération, tout comme Senghor est sur le point de le faire pour le Sénégal. Je suis un renégat. Je me convertis. J'expie. Je suis amoureux fou. Je bande surtout comme un âne. Et je n'ai pas honte.
Les hommes politiques, ils sont tous les mêmes.
Bah,
hein.
Si vous voulez, parlons de Modibo Keïta.
Bah écoute.
Ouais, bah, oui, c'est bien, parce que heureusement que Modibo Keïta était là, parce que c'est lui qui a engagé Senghor.
Non.
Comment tu peux dire les choses?
Mais oui,
mais c'est
Senghor.
Tous les mêmes.
Mais non,
oui,
c'est pas tous les mêmes.
Ah,
parce que. Modibo Keïta a bien senti le jeu de Senghor et tout de suite il a dit on casse la fédération.
D'accord. Ça je te l'accorde. Si tu veux, je te l'accorde.
Et au Burkina pendant ce temps, Joseph Ouédraogo a été arrêté. Nazi Boni a réussi à s'échapper et s'est enfui à l'étranger.
Papa a écrit à Nazi Boni. Nazi lui a répondu: votre lettre m'est parvenue, merci pour la haine et la grossièreté qui en sont les caractéristiques essentielles. Venant de vous, cela ne me surprend nullement. Je puis affirmer qu'ayant l'estime des honnêtes gens, j'ai que faire de la vôtre.
Maurice Yameogo. Maurice Yameogo était vice-président de la fédération. Il a prêté serment, le bras levé: je jure sur l'honneur, pour le respect de la dignité africaine, de défendre partout la fédération du Mali. Et si pour l'unité africaine, je dois accepter l'ultime sacrifice, je n'hésiterai pas, je ne reculerai pas, je le jure. Sur ce, un petit voyage à Paris l'année dernière, un dîner avec Focard, et hop, en rentrant, il fait sortir la haute volta de la fédération.
Aujourd'hui, c'est Senghor qui s'apprête à rentrer dans l'Europe, dans la fraternité de ses frères aux yeux bleus.
Mm-hmm.
Il est plus français que les Français qui voulaient franciser le Mali, qu'il crève avec ses compromis dynamiques.
Focard s'est ému du projet de Modibo Keïta de soustraire la fédération à l'emprise économique de la France.
Mm-hmm.
Il a tiré les ficelles.
Vous vous êtes acharné à tuer dans l'œuf cette fédération, car vous n'avez pas la garantie de la maintenir dans votre giron politique. Vous redoutez les thèses communisantes de Keïta et vous voyez déjà la fédération du Mali passant avec armes et bagages du côté soviétique.
Je ne les redoute pas.
Parce que tu es noir?
Ni moi, ni Julien, ni même Patrice. Nous croyons à la lutte.
La lutte? Tu crois à la lutte, Patrice?
Arrête tes sarcasmes, petite fille. Il n'y a qu'une solution, la lutte. Et cette lutte, il faut l'entreprendre, non pas après une analyse marxiste ou idéaliste, mais parce que tout simplement, l'Afrique ne pourra concevoir son existence qu'en menant un combat sans merci contre l'exploitation, la misère et la faim.
Oui, mmh, oui, là tu as raison.
Et ce combat, il passe par l'union de l'Afrique et des Africains.
Mmh.
L'avenir passe par une prise de conscience. Je fustige l'obscurantisme des peuples d'Afrique.
Notre obscurantisme ?
L'obscurantisme dans lequel les colons vous ont maintenu, et aussi la religion, l'obscurantisme que nous avons encouragé. Nous voyageons avec une ethnologue animée par une fascination malsaine. Nous l'avons laissée derrière nous. Elle est le prototype du blanc qui encourage l'obscurantisme.
Suzanne a préféré partir en taxi Maboul avec ses dingues d'Aoka.
Taxi Maboul ?
Notre camionnette Banania. Les Aoka filent vers le Niger avec notre amie Suzanne à bord d'une camionnette Banania changée en palais du gouverneur. Et ils ont décidé d'aller jusqu'à Dankori, jeter des sortilèges sur les tombes de Voulet et Chanoine.
C'est génial!
Non, c'est rétrograde, primitif et archaïque. L'avenir de l'Afrique
et ailleurs.
Tu te trompes, mon frère. S'il y a bien une manière d'enterrer le colonialisme, c'est celle-là.
Vive l'expédition Taxi Maboul!
Vive l'expédition Taxi Maboul!
Les soldats frappaient sans retenue. Les lampes furent jetées au sol et dans la plus grande confusion, les jeunes gens se précipitèrent vers l'arrière de la maison, s'échappant par les fenêtres. Un officier leur ordonna de se rendre. Il brandit son revolver et tira en l'air, puis au hasard. Sur le pas de la porte, Ahmed excitait les militaires qui frappaient les jeunes militants à terre. Julien, Patrice et Ixo s'étaient réfugiés dans un coin sombre de la pièce et contemplaient la scène impuissants, tandis que des soldats les tenaient en joue. Ahmed s'avança vers Julien et le toisa avec mépris.
Les menottes pour eux aussi, pas d'exception. Et je vous donne l'autorisation de frapper le Martiniquais.
Quoi encore? Tu veux dire que je brode? Non mais regarde les marques sur ton corps.
J'ai honte.
Honte de quoi? Allez, dégourdis-toi les phalanges et bois un verre. En tout cas, moi je m'en fais un. Tu tapes trop lentement alors qu'on a envie de connaître la suite. T'as pas à avoir honte. Si vous n'aviez pas été là, ils y passaient tous, crois-moi.
Bah, fais à ta guise. Continue à raconter, je t'en prie.
Un des jeunes soldats revint bredouille, à bout de souffle. La fille du président s'est échappée, et trois autres aussi, dit-il.
La fille du président s'est échappée, et les trois autres aussi.
On s'en fout de la fille du président. C'est les trois autres dont j'ai besoin. On peut les abîmer un peu pour le plaisir. On dira qu'on les a sauvés de justesse des griffes communistes.
Le visage écrasé sur le sol de terre battue, un goût de sang dans la bouche, les mains menottées derrière le dos, le genou du militaire dans mes reins. Et ma reine disparue. Denise s'est envolée, échappée. C'est une guerrière, une amazone. Tu es ma Saraounia. Je peux bien manger la poussière. Tes camarades peuvent endurer les coups. Je sais que tu es sauve. Tu reviendras et tu nous sauveras tous. Le soldat appuie encore plus fort dans mes reins. La douleur est épouvantable. J'entends Xavier Omar qui hurle sous les coups. Et je perds connaissance.
Indépendance, tcha-tcha, dozouillé. Okitwanza, tcha-tcha, tout bakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagne oh. Onipanda, tcha-tcha, dozouillé. Asireko.
C'était Expédition Taxi Maboul de Thomas Chesson et Yves Nili. Quatrième épisode.
Avec Jean-Paul Borde,
Alain Fromager,
Benjamin Belcourt,
Jean-Christophe Folly,
Jeanne Herbulot,
André Zéja Mafane,
Paulin Folloy,
Lamine Diarra,
Babacar Baïfal,
Pascal Zonzi,
Jonathan Cohen,
Laurent Lederer,
Manon Leroy.
Musique et chant.
André Zé Djamafan.
Cora et flûte.
Simon Winze.
Guitare et percussion.
Séni Samb.
Bruitage.
Bertrand Amiel.
Conseillère littéraire.
Emmanuel Chevrier.
Équipe de réalisation.
Philippe Bredin.
Sébastien Labarre.
Louise Loubrieux.
Jean-Mathieu Zang.
Indépendance, tcha-tcha, dozouillé. Indépendance, tcha-tcha, pas gagné. Indépendance, tcha-tcha, pas gagné. Indépendance, 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 pas gagné.
Et vraiment, c'est bien comme ça.